Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Merci parce que c'est ta parole qui nous édifie. Elle nous construit, elle nous transforme. Elle nous inspire. Et Père, tu veux te glorifier au travers de tes enfants. Au travers de chaque personne ici.
Seigneur.
Tu veux te glorifier. Et pour cela, tu veux que nous portions du fruit. Et que notre fruit augmente. C'est pourquoi, Père, je prie ce matin. Pour que ta parole puisse encourager ce peuple, inspirer ce peuple, défier ce peuple, pour qu'il puisse relever les défis qu'il a et comprendre la vision que tu as pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.
Amen.
Alors, ce matin, je vais vous parler de glorifier votre Père par vos fruits. Nous allons parler de fruits ce matin. Nous allons voir comment ça fonctionne dans le domaine du monde spirituel pour que vous puissiez vraiment orienter votre vie sur ce qui est principal. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui doivent être mises en priorité. Et puis, il y a des choses qui nous font plaisir. Et c'est bien de se faire plaisir. Il
n'y
a pas de souci, mais ça ne doit pas être l'objet principal de notre vie. Si tu ne sais jamais te faire plaisir, là, t'as tort, par contre. Ça veut dire que
tu
n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux. Par contre, ça
ne
va pas être l'objet principal de pourquoi tu vis. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Et c'est une parabole que l'on connaît tous. Bien sûr, c'est la parabole du cep et des sarments. Et je vais la lire en français seulement. On va lire d'abord du verset 1 et jusqu'au verset 8, et puis nous lirons aussi le verset 16. Donc, Jésus dit la chose suivante, chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on amasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez, regardez bien ici, beaucoup de fruits. Tout le monde dit beaucoup de fruits.
Beaucoup de fruits.
Répétez plus fort. Beaucoup de fruits.
Beaucoup de fruits.
Dites, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié.
C'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié.
Nous allons lire maintenant le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, regardez bien, je vous ai établi, pourquoi ? Afin que vous alliez et que quoi ? Vous portiez du fruit, vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Simwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto canke ivyamwa kandi ngo imbuto ivyamwa vyanyu bigumeho kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje kibahe.
Alors aujourd'hui on va parler évidemment de productivité dans le royaume de Dieu.
Turagomba kuvuga kubijanye no kwama ivyamwa mu bwami bw'Imana uyu munsi.
Ici on a une parabole très simple. Parce que Jésus a toujours utilisé des images très simples que n'importe qui peut comprendre. En fait, il parle d'un cep. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de vigne, ici où nous sommes en Afrique, mais en tout cas dans la partie où nous sommes. Mais le cep, l'idée, c'est le tronc.
Atangura avuga ngo muzabibu ngahano ntituze umuzabibu icari cyo mugabo cyo dutahura nuko ni giti nuruti ni umutumba w'igiti.
Et en fait, Jésus dit je suis le cep, c'est-à-dire le tronc de l'arbre.
Yesu aravuga ati jewe ni jewe mutumba w'igiti.
Et il dit vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches.
Ati namwe muri amashami ari kuri ico giti.
Et il dit mon père est le vigneron.
Ati data nawe niwe nyene.
C'est-à-dire le propriétaire.
Niwe nyene ico giti.
Et en fait, Jésus nous explique quelque chose de très simple ici, mais qui est important à comprendre. Jésus nous explique que, évidemment, une branche ne peut pas vivre seule. Elle doit être attachée à quoi ? À un tronc. Si vous coupez une branche d'un arbre et vous la mettez sur le côté,
bah
elle va sécher. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va lui manquer ? Il va lui manquer la sève. C'est-à-dire la vie qui va lui être transmise régulièrement. À partir du tronc. Et bien sûr, c'est l'image ici toute simple. Que si nous voulons porter du fruit selon Dieu, il faut que nous soyons attachés au tronc, c'est-à-dire à Jésus. Une autre chose que cette parabole nous enseigne, c'est que la Bible ne dit pas que c'est Jésus qui porte le fruit. Elle dit ce sont les sarments, les branches. Le fruit se trouve où ? Non pas sur le tronc. Jésus est au ciel. Il a terminé son ministère terrestre. Son ministère terrestre est terminé. Maintenant, il a un ministère céleste. C'est un autre enseignement. Mais son ministère terrestre est terminé.
Et
Jésus, lui, œuvre au travers de qui ? Vous et moi. Ceux qui portent du fruit, c'est vous et moi. Dieu t'a mis en
Christ
pour que tu portes du fruit. On va parler de ce que c'est que le fruit, on va détailler ce que c'est. Mais il est clair que dans cette parabole, toute simple, Jésus dit c'est à vous de porter du fruit. Vous devez être attaché à moi et vous devez porter du fruit. On va relire le verset 2 et là il est dit donc tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit il le retranche. On va laisser un peu ça de côté ce matin, c'est pas tellement mon sujet. Et tout sarment qui porte du fruit, regardez, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, alors je ne sais pas comment c'est traduit en Kirundi, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors émonder, je ne sais pas comment vraiment c'est traduit, mais en fait l'idée, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a des vergers, c'est-à-dire des arbres qui portent du fruit, eh bien, si vous savez y faire, vous pourrez aider ces arbres à être beaucoup plus productifs. Si vous laissez un arbre tout seul se débrouiller et porter du fruit, il va être attaqué par certaines maladies, par des insectes, par toutes sortes d'autres choses. Il peut même mal pousser pour différentes raisons. Par contre, si vous le cultivez correctement, il y a des choses que vous allez couper. Et là, évidemment, Jésus prend l'exemple de la vigne. Et la vigne est très particulière. C'est une sorte d'arbre, entre guillemets, très particulier. Et la vigne, quand elle commence à fleurir, elle va vouloir produire beaucoup de grappes. Et si vous la laissez faire ça, et bien la plupart des fruits qu'elle va porter vont être pourris. et ils ne vont pas arriver à maturité. Pourquoi ? Parce que la vigne n'aura pas assez de sève suivant sa croissance par rapport aux fruits qu'elle voudra porter. C'est-à-dire que les branches ne pourront pas supporter que toutes les fleurs deviennent des grappes et des fruits, donc des raisins. En fait, quand vous vous occupez d'une vigne, quand il y a les fleurs qui commencent à donner des petites grappes, vous allez être obligé d'en couper une bonne partie. Parce que si vous les laissez, je vous dis, la majorité des fruits n'arriveront pas à maturité. La vigne est une sorte d'arbre qui est très difficile à s'occuper. Il y a plein de techniques pour avoir du beau raisin à maturité selon la grandeur de la vigne. Mais en général, quand un arbre veut d'un seul coup porter trop de fruits, vous aurez des fruits pourris. Parce qu'il n'est pas arrivé à une certaine maturité. Il faut une certaine maturité dans la vie d'un arbre pour qu'il arrive à porter des fruits régulièrement et beaucoup.
Donc la
chose qu'on voit déjà dans cette parabole qui est importante, c'est que Dieu t'a créé pour porter du fruit. Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité. Et je vous dis souvent, quand on parle de stérilité, on parle le fait d'avoir des enfants. Oui, c'est une sorte de stérilité, mais il y a bien d'autres stérilités dont les chrétiens sont atteints. Ne pas porter de fruits dans ta vie chrétienne, c'est pas normal. Dieu t'appelle à porter du fruit. Et au fil des années, à porter beaucoup de fruits. Parce que ta prière, c'est peut-être, oh Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, montre-moi comment te glorifier. Et c'est une bonne prière. Maintenant, j'ai l'impression que souvent cette prière, elle est vue par des gens d'une façon tellement spirituelle. Il a pris tellement souvent que finalement, il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Je vous dis, il y a une liaison que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas entre le monde surnaturel et le monde naturel. Beaucoup de gens restent dans le domaine entre guillemets de l'esprit sans arriver à implémenter réellement ce qu'ils reçoivent du Seigneur, ou même à pratiquer la parole de Dieu d'une façon très simple, ce qui les empêche souvent de porter du fruit. C'est un problème qu'on rencontre chez beaucoup beaucoup de chrétiens, des gens qui lisent leur Bible, des gens qui viennent à l'église, des gens qui vous diront qu'ils prient une demi-heure, une heure par jour. Mais quand vous regardez, vous dites, mais c'est bizarre. Cette personne est là. Et quand vous parlez avec elle, vous dialoguez avec cette personne, vous dites, mais il y a un décalage immense entre ce qu'elle dit de sa vie spirituelle et ce qu'elle vit réellement. Et ça, frères et sœurs, il faut que ça change. La vie chrétienne est quelque chose d'ultra pratique, de très simple, mais il faut que tu saches recevoir de sa part, puiser dans sa parole et mettre cela en pratique, c'est que ça devienne une réalité. Sinon tu vas perdre ton temps dans un monde d'illusions, un monde virtuel, puisqu'on est dans l'informatique aujourd'hui, où tout se passe, tu as l'impression que les choses se passent et rien ne se passe réellement. Et ça, c'est vraiment un placebo, quelque chose où il n'y a rien dedans, où tu sembles t'agiter et il ne se passe rien.
Alors, il y a deux choses qui sont importantes quand on voit un arbre qui grandit et qui va porter du fruit. D'abord, c'est la nature de l'arbre. Jésus a dit dans Matthieu 7, 17. Jésus a dit quelque chose d'important dans Matthieu 7, 17. Il va parler de nature de l'arbre. Jésus va dire, tout bon arbre porte quoi ? De mon fruit. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. La nature de l'arbre déterminera la qualité de ses fruits. Jésus dira un peu plus loin qu'on reconnaît l'arbre à quoi ? À son fruit. Pas à ses jolies paroles. Pas à son aspect extérieur, mais à la qualité de ses fruits. Maintenant, je ne vous dis pas que le reste est mauvais, parce que là aussi, il y a tellement de travers dans le monde chrétien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir le fruit. Le fruit détermine la qualité de qui tu es et montre aussi ta croissance. Montre clairement ta croissance. Est-ce qu'aujourd'hui tu portes plus de fruits qu'il y a 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans ? Ou est-ce que ta vie chrétienne est devenue une routine épouvantable ? Où tu dors complètement spirituellement ? Et il faut simplement quelques séminaires, quand il y a un invité, alors là tu es un peu plus motivé que d'habitude. Ou est-ce que pour toi la vie est une course passionnante ? Où tu cours pour faire les choses de Dieu et tu te passionnes pour son royaume. Qu'est-ce que la vie chrétienne pour toi aujourd'hui ? Eh bien, si c'est le premier cas, c'est bien dommage. Le psaume 92, verset 13, nous dit quelque chose. Nous parle, psaume 92, verset 13. On peut lire peut-être le verset 12, ça dépend des versions. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Il est dit, les justes croissent comme le palmier. La Bible nous compare à des arbres, je vous le rappelle. Il y a bien des passages de la parole où la Bible nous compare à des arbres. Et le palmier a une caractéristique. C'est le seul arbre qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu veux porter plus de fruits, il va falloir que tu travailles à l'intérieur de toi-même. Le reflet de tes fruits, ça va être ce qui se passe en toi. Ne pense pas que tu porteras des fruits comme ça qui vont apparaître. Ça
ne
marche pas comme ça. C'est la vie de Dieu à l'intérieur de toi qui va émaner vers l'extérieur. Si tu n'arrives pas à porter des fruits à l'extérieur, il faut que tu comprennes d'abord que tu déclenches le processus des lois du royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais la Bible est claire. Ce que nous allons être de l'extérieur, c'est normalement la vie de Dieu qui doit croître en nous et se manifester vers l'extérieur. Dieu est contre la stérilité. Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité. Si tu ne portes pas de fruits ou très peu de fruits, quel que soit le domaine de ta vie, nous verrons le domaine de la repentance, nous verrons des fruits de la prière, nous verrons les âmes perdues que tu amènes dans le royaume, nous verrons tes finances, nous verrons tes relations avec les autres. Si dans tous ces domaines tu es stérile, c'est que tu as un problème. Un sérieux problème. Il faut que tu le résolves. Dieu veut t'émonder, veut travailler en toi pour que tu portes des fruits. Rappelez-vous, Jésus dit clairement, nous l'avons lu tout à l'heure, que c'est quand nous portons beaucoup de fruits, c'est par la multitude de nos fruits que le Père est glorifié. Si tu es stérile dans ta vie, alors ça montre une chose, c'est que ton Père céleste n'est pas glorifié. Et si tu veux vraiment qu'il soit glorifié, il va falloir que tu augmentes quoi? La productivité dans le royaume. De porter beaucoup plus de fruits. Dans 2 Pierre chapitre 1,
2 Pierre 1,
versets 5 à 8. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Pierre nous exhorte à propos de porter des fruits. Et juste au verset 4, on va peut-être le lire, ça sera bien pour introduire. Il dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Verset 5. « À cause de cela même, regardez bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Jacques dira, tu as la foi, mais montre-moi tes œuvres. » C'est-à-dire, montre-moi le travail de ta foi. Montre-moi d'une façon pratique. Tu dis, « Oh, je crois en Jésus. Oui, Jésus est mon Seigneur. Oh, alléluia. » Mais Jacques dit, « D'accord, c'est bien ?» Mais montre-moi des fruits de ça.
Yakobo yaravuga ngo nimbuvuga ko wizera Yesu nimbuvuga iby'umwami Yesu erekana ibyamwa byavyo.
Tu dis que tu as la vie de Dieu en toi.
Uvuga ko ufite ubuzima bw'Imana muri wewe.
OK.
Ego.
Cette vie doit manifester quelque chose.
Ariko ubwo buzima ntihagira ico bwerekana.
Si la vie de Dieu qui est en toi.
Nimba ubuzima bw'Imana buri muri
wewe. Ne manifeste rien.
Atana kimwe bwerekana.
Ça veut dire que soit tu te trompes complètement toi-même.
Nukuvuga ngo urihenda kumbure cyane.
Et tu n'es pas né de nouveau.
Ntoravuka ubwa kabiri.
Ou alors,
c'est
un sérieux problème de compréhension des lois du royaume de Dieu. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, tu as la foi en Christ, c'est bien. La vertu, c'est-à-dire la bonté, à la connaissance, la science n'est pas très bien traduite, c'est la connaissance. Tu pourras lire toi après si tu veux. D'accord. Verset 6, à la science, donc la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Oh là là, c'est vraiment une mauvaise traduction que vous m'avez mis ici. Hein. Ça aurait été mieux, il n'y a pas d'autre? Ok, parce que normalement, bon, bref. Je vais lire dans ma traduction, ça sera mieux. Je vais lire dans ma traduction parce que franchement, celle-ci, c'est pas génial. Alors, il est dit, à cause de cela, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire la bonté, manifester la bonté. À la vertu, la connaissance de Dieu, divine, la connaissance de sa parole, de son intelligence. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. La piété, je vous rappelle, c'est s'attacher vraiment au Seigneur, de tout son cœur. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour sous-entendu divin, agapé. Donc, verset 8, il va dire, en effet, regardez bien verset 8 maintenant. En effet, si ces choses sont en vous, elles sont avec en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Le mot stérile ici dans le grec, c'est sans fruit. C'est-à-dire l'opposé de porter des fruits. La stérilité, c'est l'opposé de porter des fruits. Donc Pierre nous dit, s'il y a tout ça que vous joignez à votre foi, alors ça ne vous laisserait pas oisif. Oisif, c'est quelqu'un qui est là et qui attend. Quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un, c'est le contraire d'être actif. Et en fait, Dieu veut que tu agisses, que tu produises. Produire demande des efforts. Produire demande que de ton côté, tu prennes des décisions. Tu ailles dans certaines orientations divines et que tu mettes suffisamment de pression pour ce que tu fais. Au bout d'un moment, amène des fruits. C'est pour ça qu'il parlera de persévérance un peu plus haut. Donc si ces choses sont en vous, et qu'elles y sont avec abondance, ces valeurs divines dont il parlait un peu plus haut, elles ne vous laisseront point oisifs, c'est-à-dire à rien faire. Les gens qui ne font rien, ils ont un problème. Ni stérile, c'est-à-dire sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Regardez bien verset 9, ce qu'il dit. Au verset 9, il va dire, car si, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis, regardez bien, en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc normalement, ce que ce passage nous dit, il nous dit, Dieu nous a sauvés. Il a purifié nos anciens péchés.
C'est-à-dire
avant d'être sauvés, le jour où nous lui avons demandé pardon. Et ça nous, donc on a eu la foi, on a reçu Jésus. Mais avec notre foi, on doit jouer à autre chose. Afin de ne pas être là en train d'attendre, assis sur une chaise d'église tous les dimanches matin. Mais que nous mettions en pratique. Avec des valeurs divines, des valeurs de caractère dont il a parlé un peu plus haut, et au bout d'un moment, nous devons produire, nous devons porter du fruit. Il y a quelque chose qui doit se passer. Si ça fait 5 ans que tu es sauvé, est-ce que ta progression de fruits est comme ça? Ou est-ce que c'était comme ça au début? Et qu'aujourd'hui tu dors complètement. Tu es complètement oisif. Tu es là, tu te laisses bercer gentiment. Tout va à peu près bien. J'ai reçu du Seigneur les solutions à certains problèmes que j'avais, les gros problèmes de ma vie. Maintenant ça va, donc je roule tranquillement. Ça c'est pas bien. Dieu nous dit
un.
Là c'est la meilleure solution pour s'endormir et rétrograder. Parce que si tu n'es pas actif pour le royaume, le monde va petit à petit à nouveau te réinfluencer. Rappelez-vous, on est influencé par un monde invisible. Je vous ai fait suffisamment d'enseignements là-dessus. Donc il faut que tu fasses attention comment tu mènes ta vie. Toujours alimenter ce feu. Toujours ce désir de porter des fruits. Tu dois te mettre devant Dieu et tu dis, Seigneur, moi j'aimerais porter plus de fruits. J'ai envie d'avancer. Moi je ne supporte pas quand les choses ne bougent pas. Ça me rend fou quand les choses n'avancent pas. Il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Si ça n'avance pas, que je tourne en rond, ça m'exaspère. Je ne supporte pas ce genre de vie. Donc Dieu nous dit clairement que celui en fait qui est devenu oisif, il a pris le pardon de ses péchés. Il est content, il est sauvé, il va vers le ciel. Amen, alléluia. Mais finalement, il ne comprend pas qu'il a été sauvé, délivré de ses péchés. Pour porter du fruit.
C'est
ce que Jésus nous dit. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches.
Dis,
je suis une branche.
Je suis une branche.
Et c'est moi qui dois porter des fruits.
Et c'est moi qui dois porter du fruit.
Amen.
Amen.
Et je suis décidé à en porter beaucoup.
Et je suis décidé à en porter beaucoup.
Amen.
Amen.
Alors, quels sont ces fruits? La Bible nous donne plusieurs types de fruits. Regardez Luc chapitre 3, verset 8.
Luc 3, 8.
Voilà la déclaration de la parole de Dieu. Produisez donc des fruits dignes de quoi? La repentance. Le premier fruit qu'un chrétien né de nouveau, nouvellement converti, doit porter,
ce
n'est pas des « Amen, Alléluia ». Ça, ce n'est pas des fruits, ça, c'est des paroles. Il y a beaucoup de gens, c'est ça. Eux, ils disent « Voilà, maintenant, je suis sauvé. » Et la seule chose qu'ils disent, c'est des « Amen, Alléluia ». Yesashimwe, Jésus soit loué.
Harabantu usanga iyo bakijijwe yumva ko ikintu cyambere cyo gukora ari ukuvuga ayo majambo aho navyishe.
Non, ta réelle spiritualité.
Mu byukuri impwemu zawe z'ukuri.
Montre-moi tes fruits, je te dirai qui tu es.
Zigaragarira mu vyamwa wamanyereka ivyamwa nzokubwira igituri.
Tu peux avoir un joli langage très apprêté, très parfait.
Ushobora kuvuga imvugo y'igikizwa.
Mais si tu ne montres pas tes fruits, pour moi c'est un gros baratin. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas parler le langage de Dieu, au contraire, tu dois le parler. Mais que ce langage corresponde à tes fruits. Si tu dis que tu es sauvé, c'est bien. Mais là, il y a un premier critère de fruits. Fruit digne de la repentance. Et ça, c'est le premier fruit que les chrétiens doivent
porter.
Des fruits dignes de la repentance. Se repentir, quand nous acceptons Jésus, c'est littéralement, ça veut dire changer de mentalité.
Ou
faire demi-tour. C'est ça la repentance. Ça veut dire que tu marchais dans des habitudes de péché. Tu faisais tout un tas de trucs. Et un jour, tu entends l'évangile. Tu es convaincu de péché. Et tu te repens. Tu fais demi-tour. Et ça, c'est des fruits tangibles, visibles qu'on doit voir. Tu dis, ah, moi, ça, je ne le fais plus aujourd'hui. Parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Ça, c'est des fruits de la repentance. Tu ne fais plus parce que tu t'es repenti. La repentance, c'est des actions pratiques. De changement de comportement, de mentalité par rapport au péché, par rapport à Dieu. Une vraie repentance t'amène à avoir une vie transformée avec la puissance de Dieu. Je
ne
parle pas de changer à l'extérieur et ne rien changer à l'intérieur. Mais il y a des fruits de la repentance. C'est ce que Jacques dénonçait. L'épître de Jacques, je vous rappelle, Jacques a écrit son épître. Parce qu'il voyait des abus. Il disait, il y a des gens qui disent, ils ont la foi. Moi, j'ai la foi, moi, je suis chrétien. Et Jacques disait, beaucoup de gens mentent. Ils disent ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils ont la foi. Mais Jacques disait, moi je veux voir les œuvres, c'est-à-dire les actions. Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes actions. Tu dis que
tu
as Jésus dans ton cœur. Mais si tu vis comme un païen, si tu as les mêmes habitudes de péché qu'un païen,
il n'y
a pas de fruit.
Ce
n'est pas de s'approcher à un appel et de prier la prière de repentance qui montre que tu t'es vraiment repenti. Ce sont les fruits. La transformation complète dont dépend la puissance de Dieu, bien sûr, qui dépend de la puissance de Dieu, et qui amène une transformation à l'intérieur, qui se manifeste à l'extérieur. Mais il y a des fruits de la repentance. C'est les premiers fruits que nous devons porter. Regardons Romains 6, 22. Vous êtes silencieux ce matin. On va lire à partir du verset 21. Paul va nous donner le contraste entre ce que nous faisions avant et comment nous devons nous comporter après. Je vous rappelle que Jésus n'est pas dans le business de l'adhésion. Nous avons beaucoup d'adhérents. Mais montre-moi les fruits d'une vraie repentance chez toi. C'est ça qu'on veut voir. C'est la première chose qu'on veut voir chez quelqu'un qui se donne à Christ. Pas des trucs, j'étais catholique, je suis devenu protestant. Ou je vais prier dans telle ou telle église.
Non,
la Bible nous parle de fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Tu commences à porter des fruits et il va t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits. Donc c'est une question de fruits, de transformation, de recevoir la vie de Dieu. Et que cette vie de Dieu passe au travers de toi. Et il y a des fruits. Premier, la repentance. La Bible nous dit, quel fruit portiez-vous alors? C'est-à-dire quand on était inconverti. Quel fruit portiez-vous alors? Verset 21. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Vous savez, il y a des fois, quand j'entends des témoignages, des fois, j'ai envie de crier. Il y a un gars qui vous raconte sa vie passée. Il dit, ah ouais. Moi, vous savez, j'étais très connu ici. Hein. Et puis, je draguais toutes les filles. J'ai couché avec 150 filles. Hein. Et le gars, il est presque en train de se vanter sur son péché d'avant. Je vais vous raconter tout comment je faisais pour voler. Non, la Bible nous dit qu'on en a honte normalement. Tu dois avoir honte de ces choses. En disant vraiment, avant d'être sauvé, je faisais n'importe quoi. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Il y a des gens qui viennent vous raconter qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela, c'est tout juste qu'ils ne s'en vendent pas. Et après, ils vont dire, oui, Jésus m'a sauvé. Je voudrais bien voir si Jésus t'a sauvé. Si tu es fier de ton péché d'avant. Et quand tu racontes ton témoignage, tu vas presque te vanter de qui tu étais. Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. La Bible nous dit des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Nous avons été pardonnés, mais nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait avant d'être convertis. J'étais un soulard et on s'envoyait 10 Amstel en 30 minutes, on faisait des concours. Excuse-moi de le dire, si c'est ça dont tu as honte, non, tu as l'air de t'en vanter. Non, tu dois avoir honte de ça. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, regardez bien, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.
La
sainteté, la sainteté a deux aspects, sanctification. Numéro un, c'est le nettoyage de ta vie passée, des saletés, des relations pourries, de tout ce qui a fait que tu marchais dans le péché. Et ça, tu le fais avec la puissance de Dieu, sachant qu'il t'a aimé, qu'il t'a sauvé. Mais il y a un fruit de la repentance. Quand tu te repens, tu prends le balai divin et tu nettoies la maison. Il y a un fruit qui doit être là. Maintenant, je ne te dis pas que le jour même où tu vas être sauvé d'un seul coup, tout va être extrêmement bien. Mais il y a des résolutions à prendre. Moi, j'aime bien quand quelqu'un vient au Seigneur et me dit, tu sais, pasteur, avec ça, je suis pas du tout à l'aise. Ça, j'aime bien parce que ça montre que la personne veut nettoyer sa vie.
Alors
qu'il y a des gens, on a l'impression, ça reste comme si c'était du normal. Non. Tu reçois Jésus, tu fais le grand nettoyage sur tes habitudes de péché et sur tes mauvaises relations. Ça fait partie des fruits de la repentance. Et tu te consacres à Dieu. C'est l'autre aspect de la sainteté. Tu vas passer du temps dans sa parole. Tu vas prier et passer du temps avec lui. Parce que tu l'aimes. Parce qu'il t'a sauvé. Il y a des fruits évidents.
Ta vie
change rapidement. Quand on ne voit pas les gens être transformés, quand on les voit juste s'asseoir dans une église,
mais
ça
ne
sert à rien. Je vous rappelle, ce n'est pas parce qu'un jour vous êtes rentré dans une boulangerie que vous êtes sorti en baguette. Ou dans une poissonnerie que vous êtes sorti en
mikeke.
L'église ne sauve pas.
Ce
n'est pas le fait d'être dans une église qu'on est, ça ne fait pas de nous des chrétiens. Non.
Oh, yeah.
Vraie repentance, il y a des fruits. Ce sont les premiers fruits. Et là, nous les portons pour nous-mêmes. Ensuite, nous allons porter des fruits envers les autres. Et c'est là où il y a du travail à faire en nous. On va reprendre Jean chapitre
15.
Et un type de fruit que nous devons porter, c'est le fruit de la prière. Le fruit de la prière. De la prière efficace. De la prière qui transforme les situations. Parce que nous avons un gros travail à faire. Chacun d'entre nous jusqu'à notre dernier jour. C'est de porter du fruit dans la prière. Qu'est-ce que c'est que le fruit de la prière? C'est une prière exaucée, efficace. C'est amener des besoins humains et voir des réponses divines à ces besoins humains. C'est le fruit de ta prière. Je vous rappelle que Dieu agit selon notre prière et notre foi. J'espère que vous n'êtes plus dans ces logiques religieuses
où
vous pensez que Dieu va faire ce qu'il veut comme il veut sur la terre. C'est faux. Vous êtes suffisamment enseigné sur le fait que la gestion de la terre aujourd'hui, c'est l'ennemi qui l'a. Et que Dieu n'agit pas par hasard.
Mais
il a besoin d'un cœur qui croit.
Et
une bouche qui demande. Pour pouvoir laisser passer sa puissance. Et Jésus nous parle sérieusement du fruit de la prière. Dans cette fameuse parabole de Jean chapitre 15. Donc il nous parle de porter beaucoup de fruits. D'être émondé et de porter beaucoup de fruits au verset 2. Il nous parle clairement encore de fruits au verset 4, au verset 5. Et après, il va nous parler de quelque chose. Versets 7 et 8 qui sont très reliés. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et tout de suite, il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits.
Donc
un des fruits que nous devons porter, c'est le reflet de notre relation avec Dieu au niveau de la prière. Et c'est ta foi qui doit se développer. Et là, tu dois comprendre ton rôle. Tu vas avoir du fruit, des réponses à ta prière. Pour toi-même, mais aussi pour les autres. Je vous rappelle que le chrétien malheureux, la recette du chrétien malheureux, c'est le chrétien qui n'arrête pas de prier pour lui, de penser qu'à lui. De centrer toute sa vie spirituelle sur moi, moi et moi seulement. Nous avons un rôle de porter du fruit dans la prière pour les autres. De voir des réponses divines à des problèmes humains. C'est ton rôle et ta destinée.
Tu n'as
pas besoin d'être dans le ministère pour ça.
Tout
chrétien est appelé à porter du fruit dans la prière. Et ici, Jésus nous parle de demeurer en lui. C'est-à-dire d'être né de nouveau. Et bien sûr que sa parole demeure en nous. Et ça, c'est ton travail. Ton travail est de passer du temps dans la parole. Ton travail, c'est de motiver ta foi, d'apprendre à lui demander quelque chose selon sa volonté, selon sa parole, avec la foi dans ton cœur. Dieu n'agit pas par hasard, il a besoin de toi. Et c'est à toi de porter ses fruits. Si tu dis, moi je m'en fous des autres, ce qui m'intéresse c'est moi,
bah,
franchement, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris.
Tu
dois apprendre à déverser tes prières sur les autres. Et tu verras des fruits extraordinaires. Porter des fruits. Ça fait partie de notre vie de prière exaucée. Dieu veut que tu apprennes à progresser dans ta vie de prière. De voir de plus en plus d'exaucement, plus grand. Selon ta foi qui grandit. C'est ainsi que ton Père est glorifié. Quand tu es là, et que tu es là en train de prier pour quelqu'un, il va être sauvé, il va être guéri, il va être délivré, il va être touché dans ses finances, il va être touché dans sa vie relationnelle, il va être touché à droite à gauche. C'est le fruit de tes prières. Il va être protégé surnaturellement. C'est le fruit de tes prières. C'est ainsi que ton Père est glorifié, parce que il y a des exaucements dans ta vie. Donc le sujet de la prière est un sujet central pour porter des fruits. Les âmes perdues que nous amenons. Autre fruit encore, Jean 4, verset 36. 4:36. Jésus dit, Jean chapitre 4, verset 36, « Déjà le moissonneur reçoit un salaire et il amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. »
Ngumwimbuzi aragererwa yegeraniriza ivyimbugwa mu bugingo budashira kugira ngo bibanu wimbura banezeranwe.
Et là, évidemment, si vous regardez le verset 35 et jusqu'au verset 38, eh bien, vous verrez qu'on parle de moissonner des âmes perdues.
Usome 35 gasoma 38 cyubana nuko bavuga ubuzima bw'abantu tuzana muri Yesu.
Les fruits, ce sont des âmes perdues.
Ivyamwa ni abantu
bakizwa. Viennent dans le royaume de Dieu.
Baza mu bwami bw'Imana.
Lorsque tu témoignes de ta foi, lorsque tu pries pour un inconverti.
Yushingira nta ukwizera kwawe, yusengera.
Tu l'amènes à Jésus.
Ukabazana kuri Yesu.
Ce sont des fruits que tu portes.
Ivyo ni vyamwe buri kurama.
Et c'est ainsi que ton Père est glorifié dans ta vie.
Go data muri cyo arashimagizwa mu buzima bwawe.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont des fruits.
Uruva hari ibintu byinshi.
Regardons Tite, chapitre 3, verset 14. Vous savez, dans le monde protestant, on ne parle plus tellement des bonnes œuvres. Vous avez remarqué ça?
Hein?
Ceux qui étaient vraiment très ancrés chez les cathos il y a longtemps, on parlait tout le temps des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres chez les cathos.
Mais
chez les protestants, on a l'impression qu'on ne doit plus faire grand chose pour les autres. Parce qu'on dit que ça c'est religieux. Pas tout à fait, hein? Pas tout à fait. La Bible nous parle de pratiquer des bonnes œuvres. Maintenant, il y a les œuvres mortes et les œuvres selon Dieu. Regardez ici, il faut que les nôtres aussi apprennent, regardez bien, apprennent à quoi faire, à pratiquer les bonnes œuvres. C'est dans la Bible, c'est pas dans les religions seulement, c'est dans la Bible. Pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants.
Et
regardez bien après ce qu'il dit, afin qu'il ne soit pas là sans produire des fruits. Vous avez la même Bible que moi? Vous n'aviez jamais remarqué ce verset? Pourtant c'est dans la Bible ici. On parle bien de bonnes œuvres, vous êtes d'accord? Et là ici c'est aider des autres dans des besoins pressants.
On ne
fait pas n'importe quoi quand on aide les autres.
Mais
quand
il
y a des besoins urgents, tu dois écouter ton cœur, ton esprit. C'est la maturité aussi. Beaucoup de gens, vous savez, font des œuvres mortes. Dans Hébreux, il nous est parlé de nous repentir des œuvres mortes. C'est quoi la différence entre, je crois que c'est Hébreux 6, verset 1, regarde un peu, je cherche dans les références. Je crois que c'est 6, 1, Hébreux 6, 1, il me semble. Et en fait, quelle est la différence entre une œuvre morte et une bonne œuvre selon Dieu ? L'œuvre morte, c'est quelque chose que tu fais sans la vie de Dieu. Et aussi pour recevoir de la gloire personnelle. En fait, c'est la fausse humilité. Vous savez, les gens qui disent je fais ça pour Dieu, et en fait, ils prennent toute la gloire. Les œuvres mortes, ce sont des choses qui sont sans la vie de Dieu, qui paraissent bien, mais qui ne sont pas motivés par Dieu, inspirés par Dieu. Et en fait, vous voyez ici, il dit à la fin du verset 1, chapitre 6 d'Hébreux, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes.
Jésus
dit sans moi vous ne pouvez rien faire dans Jean 15, c'est-à-dire sans dépendre de ma direction et de ma vie vous ne pouvez pas porter des fruits selon Dieu. Et ici c'est clair, il est parlé de renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire les choses qu'on fait sans Dieu, sans direction divine. Il y a des choses qui sont très bien pour aider les autres, mais qui sont des œuvres mortes. Tu vas investir de l'argent, de ton temps, mais ça ne va pas aider ces gens-là à se rapprocher de Dieu. On n'est pas dans les œuvres mortes. La Bible est claire. Faire une œuvre morte, c'est en fait investir beaucoup de choses dans quelqu'un, mais cette personne ne s'approche pas de Dieu.
Vous
voyez, c'est un peu la différence que je vous disais la dernière fois entre le développement et la prospérité divine. Se développer, c'est bien. Développer un pays, c'est bien, mais ce n'est pas la prospérité divine. Les gens confondent beaucoup de choses. Ils confondent les choses qui extérieurement ont l'air d'avancer, mais dans lesquelles la relation avec Dieu n'est pas impliquée. Et ça, c'est très dangereux. La vraie prospérité implique que tu vas avancer, mais c'est la conséquence de la relation avec Dieu qui se creuse dans ta vie. Le développement fait avancer les choses, mais on écarte Dieu de plus en plus, ou complètement. Et les œuvres mortes, c'est la même chose. Ce sont des choses que tu fais qui peuvent paraître très bien, mais où il n'y a pas la vie de Dieu dedans. Donc, il ne se passera rien, divinement parlant. Les gens ne vont pas s'approcher de Dieu,
ne
vont même pas se convertir, et tu auras passé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie, où tu auras investi ton argent, ton temps, et il
n'y
aura rien qui va se produire selon Dieu. C'est une bonne œuvre morte. Les vraies œuvres de Dieu qui portent des fruits sont faites selon son cœur, selon sa direction, selon sa vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans Tite 3:14, on va revenir à ce passage, Paul est très clair. Il dit il faut qu'on apprenne à pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres selon Dieu, inspirées par Dieu, où là tu vas impliquer ta main, tu vas impliquer ton argent, tu vas impliquer ton temps, mais c'est ordonné par Dieu. Je vous donne souvent ces exemples d'orphelinat.
Il
y a vraiment des appels clairs où Dieu veut qu'il y ait certains orphelinats qui soient faits.
Faire
un orphelinat, ça peut être une bonne œuvre. Mais ça peut être aussi une œuvre morte. Tout dépend de la direction divine. Et le temps le montrera. Le temps le montrera. Et je vous ai montré qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus des grands directeurs d'ONG et leur ministère est complètement étouffé.
Œuvre
morte.
Œuvre
morte. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Voyez à long terme, moyen et long terme. Ne pensez pas comme le monde pense. Pensez comme Dieu pense. Et par contre, on voit aussi des choses divines, des œuvres divines, par exemple dans les orphelinats ou dans d'autres domaines. Où il y a des fruits extraordinaires qui sont portés. Parce que c'est ordonné par Dieu. La source était différente. La branche était attachée à des sources différentes. Le fruit, vous ne le verrez pas du jour au lendemain. Cela demande du temps. Donc, faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire être là sous l'impulsion du Saint-Esprit, de ton cœur. Des fois, nous posons des actions, frères et sœurs, qui ont des conséquences incroyables dans la vie des gens. 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, les gens viennent vous voir et disent « Je suis devenu ça parce que ce jour-là, tu as fait ça pour moi. » Ça,
ce
n'est pas une œuvre morte. C'est un fruit. Extraordinaire. Et ça ne se passe pas par hasard. C'est pour ça que Dieu nous appelle à porter du fruit selon son cœur. Non pas selon ce que le monde applaudit. Parce que le monde applaudit sur des choses qui parfois sont absolument honteuses. On pourrait parler des finances. Philippiens 4, verset 17. Tu ne dois pas être stérile financièrement. Tu dois être productif pour le royaume. Tu dois être productif pour le royaume. Ce que tu produis comme finance et comme prospérité financière doit être selon Dieu. Pour objectif de financer le royaume, numéro un. Et la Bible nous dit ici, c'est Paul qui nous parle, il parle de finances ici. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais regardez bien, je recherche quoi? Le fruit qui abonde pour votre compte. Paul parlait ici de finances qui sont données au royaume. C'est un fruit qu'on nous donne au royaume. Avec bien sûr le cœur. C'est pour ça que je ne supporte pas les enseignements. On fait croire aux gens, donnez et Dieu va vous donner 100 fois en plus. Et les gens sont rivés sur quoi? Simplement sur dire, je vais pouvoir m'acheter la dernière voiture qui va sortir, toute neuve, les maisons, les machins, il n'y a que ça qui les intéresse. Ça, c'est pas la prospérité, ça c'est la perversion du message de la vraie prospérité divine. Et c'est triste. Parce que les gens ont utilisé ce message. Le message divin des finances. Pour faire dire n'importe quoi et pour l'utiliser à leur fin personnelle. Et ça a été d'ailleurs un désastre dans pas mal de vies chrétiennes. Et Paul ici nous parle de fruits. Selon ton cœur. Tu crées ces richesses et t'en donnes une partie au royaume de Dieu avec un cœur de donneur. Tu portes des fruits. Chacun de nous, nous avons des dons différents, frères et sœurs. Nous
ne
sommes pas tous appelés à la même chose. Par contre, nous sommes appelés à porter du fruit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des âmes perdues. Mais avant cela, tu dois porter les fruits d'une vraie repentance, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la prière, dans tous les domaines. Il y a des choses dans lesquelles tu vas porter beaucoup plus de fruits parce que c'est plus, je dirais, là où Dieu t'a appelé.
Tes dons, Mais
nous sommes tous appelés à porter des fruits dans tous ces domaines-là.
Maintenant,
il y a certains domaines où nous allons plus porter de fruits pour les
uns
et moins pour les autres. Dans certains domaines. Mais dans tous les domaines, tu dois vérifier si tu portes des fruits. Est-ce que tu portes les fruits d'une vraie repentance d'abord? Est-ce que tu portes les fruits des âmes perdues qui viennent à
Christ?
Est-ce que tu portes les fruits de la prière pour les autres? Est-ce que tu portes des fruits financiers pour le royaume? Est-ce que tu es capable de connecter des gens ensemble avec les meilleures relations? Est-ce que tu es quelqu'un qui vient aider les autres et investir chez les autres? Est-ce que tu es un égoïste? On pourrait parler des fruits de l'esprit, de notre esprit aussi. Quel fruit portes-tu, mon frère, ma
soeur?
Quel est ton désir? Tu dis, Seigneur, je veux te glorifier. Mais tu le glorifies par tes fruits. Tu
ne
le glorifies pas simplement en lui disant des jolies
paroles.
Parce que si tes paroles ne reflètent pas ton cœur
et
les fruits que tu portes, c'est que tu as un problème sérieux. C'est que tu vis dans un monde imaginaire. C'est que tu ne comprends rien à la vie spirituelle. Dieu veut une connexion entre ta foi, tes paroles, et nous insistons sur la parole de la foi ici.
C'est
très important. Nous savons, mais elle doit être accompagnée d'œuvres, de choses pratiques, de fruits tangibles qui montrent quel type d'arbre nous sommes. Non pas des jolis discours ou des beaux trucs bien gentils où il n'y a pas quelque chose de tangible
derrière.
Et c'est ça qui fait de nous la qualité des chrétiens.
Le
peuple de Dieu doit être un peuple de qualité. C'est bien d'avoir de la quantité, mais ça doit être accompagné par la qualité. Sinon nous sommes en train de travailler en vain. Mais il y a d'autres passages qui nous parlent d'avoir un fruit qui est volé, qui ne demeure pas. C'est pour ça que nous devons avoir une perspective de créer des choses qui sont solides parce qu'elles sont fondées sur la parole, sur des valeurs divines. Nous allons clôturer par un mot de prière. Père, nous te remercions pour ta parole. Je prie pour chaque personne ici pour qu'elle puisse examiner sa vie et chercher à porter du fruit, davantage de fruits, fruits d'une vraie repentance, mais aussi, Seigneur, des fruits des âmes qui viennent dans le royaume de Dieu par leur témoignage du fruit, Seigneur, de la prière, qui sache utiliser tout cet enseignement qu'ils ont ici pour porter du fruit dans la prière efficace, qu'ils sachent, Seigneur, aussi porter du fruit dans les finances et donner à ton royaume, qu'ils sachent, Seigneur, porter du fruit relationnel pour connecter des gens ensemble. Père, je te remercie parce que tu veux que ce peuple soit un peuple, Seigneur, de qualité qui porte davantage du fruit. Je prie pour que tu émondes davantage ce peuple. Émonde-nous, Seigneur. Émonde-nous, Seigneur. Oh, dis-lui, Seigneur, émonde-moi. Je veux porter plus de fruits. Je veux porter davantage de fruits. Je veux pas être quelqu'un de stérile. Je veux pas avoir simplement le pardon de mes péchés et ne rien porter comme fruit. Mais je veux, Seigneur, porter davantage de fruits. Parce que, Père, je veux que tu sois glorifiant. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, passez un excellent dimanche et pratiquez la parole et regardez votre vie.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257
22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.